Bonjour Judith Bernard, merci de nous accueillir et d'accueillir donc une émission de Transistor. Pour commencer, on va revenir un peu sur votre parcours. Vous sortez de l'ENS avec une agrégation de lettres modernes. Vous devenez ensuite professeur et puis vous avez choisi de prendre la plume publiquement dans une émission d'art et sur image, émission intitulée Dans le texte. Et vous avez également une activité théâtrale assez dense. Alors comment tout cela s'est-il passé? Comment tout cela s'est-il organisé? Quel a été votre parcours?
C'est un parcours accidenté, avec de l'imprévu et des événements désagréables, il faut bien le dire, parce qu'au sortir de Normale Sup, je ne suis pas tout de suite devenue professeure en lycée. Je suis d'abord partie 4 ans et demi sur un poste d'enseignant-chercheur à Lyon 2 plus précisément, où j'étais d'abord AMN, pour allocataire monitrice normalienne, puis ATER, pour attachée temporaire d'enseignement et de recherche. Et dans ce cadre, j'ai fait une thèse. Qui s'est très mal terminée, sous la forme d'une soutenance extrêmement passionnelle et violente et destructrice, à l'occasion de laquelle on m'a un peu excommuniée, en fait, du monde universitaire. J'en ai tiré un grand sentiment d'injustice, une expérience assez violente, assez traumatisante, d'où je tire maintenant une énergie, je dois dire, de renaissance perpétuelle et peut-être aussi une forme de ressentiment par rapport aux institutions académiques. Et donc c'est après avoir été pendant 4 ans et demi, 5 ans enseignant-chercheur que j'ai expérimenté la position de prof en banlieue dans le 93, prof de français dans des lycées assez durs de la région parisienne, où là, il y a eu une confrontation au réel social, à des injustices autrement plus coriaces que celles que j'avais eu l'impression de subir. Du coup, j'étais très, très engagée, très militante, très, très impliquée dans la conscience civique au moment de mes années de prof en lycée. Et quand il y a eu la grande grève de 2003, hein, où les enseignants des collèges et lycées sont mis en grève pendant 2 mois pour protester contre la décentralisation des conseillers d'orientation psychologues, pour protester contre la réforme des retraites, moi j'étais un petit peu, non pas fer de lance du mouvement, mais en tout cas très très engagée dans cette mobilisation et très attentive au traitement médiatique de la mobilisation, parce que en fait c'est à l'occasion de ce mouvement que j'ai regardé quelques journaux télévisés pour voir comment on traitait notre mobilisation, comment elle était restituée, et c'est là que j'avais observé que il me semblait que les journaux télévisés avaient un traitement tout à fait partisan de la mobilisation, finalement un traitement très pro-gouvernemental qui privait notre mouvement de toutes ses chances de réussite. Et donc j'avais organisé une action, un peu une action symbolique à l'encontre des médias en organisant le siège de France Télévisions. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée invitée à Arrêt sur Image, en fait, d'abord comme prof gréviste ayant son mot à dire sur le traitement des médias. Donc j'ai été invitée comme prof gréviste. J'ai beaucoup parlé et soutenu, défendu ma cause. Et cette émission a fait valoir que j'avais des choses à dire sur les médias. Et donc ensuite, Daniel Schneiderman, après m'avoir invité une deuxième fois, cette fois-ci comme responsable d'une troupe de théâtre qui avait été embarquée dans le mouvement de la grève des intermittents, du spectacle, pendant le Festival d'Avignon qui avait été supprimé. Bon, donc j'avais été invitée une deuxième fois. Et puis après, je suis devenue chroniqueuse à Arrêt sur Image. Mais donc un peu sans l'avoir voulu. C'est voilà, on m'a proposé cette tribune et bien sûr je ne l'ai pas refusée parce que j'étais pas fâchée au fond d'avoir un espace pour déployer une parole et une pensée critique à l'égard du monde médiatique. Donc voilà, l'expérience Arrêt sur Image est venue s'ajouter à mon expérience de prof en lycée. Et puis l'expérience Arrêt sur Image a débouché aussi sur un incident désagréable, puisque à France 5, 2 ans après que je sois arrivée, l'émission a été supprimée pour des raisons qu'on soupçonne un peu d'être politiques, puisque c'est au lendemain de la victoire de l'UMP aux législatives, vraiment après la victoire de Sarkozy au présidentiel, 2 mois plus tard, victoire de l'UMP aux législatives, un dimanche, le lundi matin, on apprend que l'émission est supprimée. On avait un peu le sentiment que c'était le vent tournait et que nous étions devenus complètement indésirables. Et donc, moi, dans ma vie professionnelle, ça fait l'effet d'une deuxième excommunication, sauf que cette fois-ci, c'est toute une équipe. Donc, je me sens moins victime d'un destin funeste et un petit peu plus, disons. Je commence à repérer que j'occupe toujours des lieux qui sont des lieux très fragiles et menacés de destruction, quoi. Et donc ensuite, à Arrêt sur Image, eh ben, on a fondé un site internet dans lequel on peut à nouveau exercer notre activité, même de manière beaucoup plus libre, plus déployée, puisque sur internet, on est absolument libre de dire et faire tout ce qu'on veut. Et puis parallèlement à tout ça, le fait de revenir à Paris pour être prof en lycée, ça m'a permis de revenir auprès des miens, de mes proches, et notamment de ceux avec qui je rêvais de faire du théâtre depuis très longtemps, qui étaient au fond des potes de lycée. Mais voilà, je voulais les retrouver et je voulais créer avec eux un collectif qui nous protège, qui nous blinde contre les aléas de la vie. Voilà, une manière de créer un espace de bonheur, de convivialité et de création artistique au milieu de toutes les débâcles politiques et sociales dont j'étais témoin. Voilà, donc la troupe de théâtre, elle a été créée en 2002, vraiment juste à mon retour à Paris. Et elle est active, très active. Là, on vient de jouer un spectacle pendant 3 mois et demi, 4 mois à Paris. Et on s'apprête à en créer un autre. Je suis très impatiente de ça.
Donc, votre parcours, finalement, c'est un peu l'histoire de la défense de vos passions de jeunesse entre à la fois littérature, théâtre et envie de dire les choses sur l'espace public. Vous le définiriez comme ça?
Oui, il y a à la fois, je pense, une vocation à faire passerelle. Je pense que ce qui caractérise toutes mes activités, c'est le fait d'être une passeuse, une passerelle entre des œuvres et des publics. Que ce soit les publics scolaires, à qui je transmettais avant les œuvres littéraires. Maintenant, j'enseigne en BTS audiovisuel, donc ce sont des étudiants à qui je transmets des choses aussi sur le cinéma, sur le théâtre et aussi sur les reportages télé. On fait aussi du décryptage média. Mais donc, je me vis comme une passerelle, une passeuse, et au théâtre aussi, au fond, puisque j'ai commencé en étant metteur en scène de textes qui n'étaient pas les miens. Donc, bah, la position du metteur en scène, c'est évidemment cette position de passeur, hein, qui fait passer la lettre du texte dans la chair des acteurs, qui fait passer le corps de la pièce dans l'imaginaire des spectateurs. Donc, voilà. Et mon travail à Arrêt sur Image aussi, c'est évidemment celui d'une passeuse ou d'une passerelle, que ce soit dans mes chroniques de critique média, où il s'agit de transmettre quelque chose des humeurs, d'indignation, de révolte. Que m'inspire le buzz médiatique, les transmettre à l'opinion pour alimenter quelque chose de l'ordre de l'indignation, pour qu'un jour ça finisse peut-être par faire une colère un peu constructive.
Donc aujourd'hui, vous avez des activités assez nombreuses qui doivent beaucoup vous occuper. Et c'est vrai que quand on regarde ça de l'extérieur ou qu'on prépare un peu une émission, on se demande comment vous arrivez à mener tout ça de front. Est-ce que quand vous étiez vous rentrez à l'ENS en 1992, est-ce que vous imaginiez votre vie comme ça?
Non, à l'époque, je pensais que j'aurais beaucoup plus un parcours en ligne droite. Je savais déjà ma passion pour le théâtre. Je savais que le théâtre jouerait un rôle dans ma vie, mais à l'époque, je pense que j'avais pas l'audace d'imaginer un destin professionnel dans le théâtre, probablement du fait de mon éducation plutôt bourgeoise, qui me conduisait assez naturellement à exploiter mes talents, entre guillemets, de bon élève. Il y avait une espèce de voie toute tracée, puisque j'étais une brillante élève, il allait de soi que j'allais vers l'agrégation, la thèse et la carrière universitaire. Donc, quand je me projetais, ce que je faisais assez peu parce que j'ai jamais été très carriériste, je pense que ça m'a coûté d'ailleurs très cher, quand je me projetais, j'imaginais une carrière d'enseignant-chercheur en théâtre, qui m'aurait permis à la fois voilà, d'être du côté de la théorie et des cours magistraux sur l'histoire du théâtre, et en même temps avec assez de temps de recherche, où la recherche, ça aurait été pour moi pas seulement faire de la recherche sur l'activité des autres, mais au fond une recherche dans la pratique théâtrale. J'imaginais ça au départ. Je ne pensais pas qu'il y aurait le premier accident, qui était l'accident de la soutenance de thèse, où tout à coup l'institution m'a renvoyé de moi-même une image très inattendue. Jusqu'à présent, j'avais vraiment le profil de la très bonne élève qui accouche naturellement d'une pensée et d'un discours parfaitement conformes aux attendus. Hein, j'étais moulée vraiment dans le modèle académique. Et au moment de la soutenance de thèse, c'est la première fois qu'on me renvoie l'idée que non seulement c'est pas conforme au modèle, mais c'est même pratiquement destructeur du modèle. J'avais l'impression d'être traitée comme une dangereuse terroriste susceptible de saboter l'institution avec ma manière de faire. Ma manière qui était effectivement un peu, peut-être, maintenant je m'en rends compte après coup, un peu transgressive, parce que je mélangeais différentes disciplines qui s'ignorent les unes les autres, que mon objet avait quelque chose d'iconoclaste. Je le mesurais pas, j'en mesurais pas la gravité. Donc non, en 92, quand j'intègre l'ENS, je ne pensais absolument pas qu'il y aurait tellement de mouvements, d'accidents.
vous devenez professeur, vous exercez ce métier avec une certaine passion. Je crois que vous avez réussi à nous faire toucher du doigt. Et donc, justement, parlons un peu de l'école. Alors, aujourd'hui, on peut lire beaucoup de pamphlets, beaucoup d'études, beaucoup de classements qui montrent que le système scolaire français est un système inégalitaire, que le système scolaire français est un système atteint, si on peut dire, d'une réformite plutôt aiguë. Finalement, au sortir de tout ça, c'est un système qui semble promis un peu à une mort prochaine. Alors comment voit-on les choses quand on est à l'intérieur, à la fois en lycée, à la fois en BTS, et en même temps issu d'une grande école et de la classe préparatoire ?
J'ai une position extrêmement culpabilisante, celle que j'occupe, parce que de mon poste d'observation, ce que je vois à l'évidence, c'est que du côté de l'enseignement démocratique, c'est-à-dire les lycées d'enseignement général, professionnel et technologique, c'est un désastre. Le défaut de moyens empêche absolument de traiter les problèmes qu'on rencontre, qui sont des problèmes de misère sociale, intellectuelle et culturelle, des problèmes d'intégration à l'évidence. Enfin, voilà, et que l'école n'a pas du tout les moyens d'accueillir et de soigner, en fait, la blessure sociale que notre système politique et économique inflige. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'enseignement démocratique, c'est un désastre. Pour ce qui est de l'enseignement plus élitiste, c'est une réussite obscène. C'est-à-dire, moi, sortant de l'ENS, je vois bien que j'ai été dotée d'un outillage intellectuel qui me permet de faire plusieurs métiers, de les faire avec réussite, que partout où je fais quelque chose... On me réclame après. Je me suis retrouvée aussi à faire des chroniques à radio, à France Inter, où je suis capable de produire en peu de temps une chronique littéraire qui est tout de suite reçue avec plaisir comme une chose à la fois intelligente, rigolote, agréable. Bah oui, j'ai appris à faire rapidement des produits de qualité. Ça me sert aussi dans mon enseignement en BTS. J'ai été capable d'improviser une compétence en audiovisuel. J'ai été capable d'improviser une compétence en décryptage média alors que je n'avais aucune formation. Comment j'improvise cette compétence ? C'est parce que j'ai reçu un enseignement d'élite qui m'a donné des outils méthodologiques fondamentaux, une rigueur dans la pensée dont je profite chaque jour. Et en plus, je vois bien que les places culturelles aujourd'hui, les places de pouvoir intellectuel ou de pouvoir culturel sont occupées par des normaliens, bien sûr. Là, j'arrive à un âge, là moi j'ai 38 ans, où je vois autour de moi les normaliens de ma promotion commencer à occuper des sièges extrêmement confortables, extrêmement puissants.
Je préparais
évidemment à Nicolas Demorand, qui est en position de récupérer la direction de Libération, ce qui me paraît, pour dire la vérité, une chose absurde, parce que je pense que c'est un navire beaucoup trop important pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience de presse écrite. Bon, et je dis ça en dehors de l'amitié qu'on a pu avoir, parce qu'on préparait la grecque plus ou moins ensemble, on n'était pas vraiment très très amis, mais c'est quelqu'un pour qui j'avais énormément de considération. Quand il a commencé à faire la matinale de France Culture, j'ai été reçue dans sa matinale plusieurs fois, à France Culture, à France Inter. Je trouvais qu'il faisait un boulot de journaliste absolument exceptionnel. Manière de dire, encore une fois, que décidément, oui, les normaliens sont multicompétents et qu'ils ont des savoir-faire qui sont très vite recyclables dans plein de domaines professionnels. C'est génial. Sauf que bon, il y a un moment où ça prend des proportions. Là, le fait de lui refiler quasiment le bébé Libération, enfin, c'est qui est d'ailleurs loin d'être un bébé, et de mettre sous sa direction des journalistes qui ont 40 ans de métier, là, je trouve qu'il y a quelque chose d'indécent, quelque chose d'obscène. Bon, là, à France Culture, je vois, bon, maintenant, je commence à avoir quelques amis, camarades de promo qui sont à droite à gauche sur les postes importants, qui font la pluie et le beau temps sur le paysage culturel. Je me dis, voilà, donc c'est ça, Normal Sup. C'est une bête qui accouche des élites du lendemain. Et là, on arrive à un âge où, oui, on y accède à ces positions. Moi, qui ai toujours été très... dans des lieux très contestataires, très critiques, pas du tout du côté des dominants, plutôt en m'identifiant beaucoup à des dominés, c'est très bizarre pour moi de me retrouver à un âge et dans des positions où ça commence à ressembler à des positions dominantes quand même, là où je suis. Voilà. Et alors la culpabilité, c'est aussi enseignant BTS audiovisuel, où là il y a des moyens matériels, des conditions pédagogiques très confortables. Mes étudiants, ils sont 12 par groupe. Et donc, avec eux, on avance très, très vite et très, très bien. On leur fait avoir leur diplôme en un an et demi dans des conditions remarquables. Tout le monde est très heureux. Et voilà, je vois le contraste entre mes années lycée, où j'avais 35 gamins par classe qui étaient totalement perdus et pour qui je ne pouvais pas faire grand-chose parce qu'il y avait d'abord un problème de maîtrise de la langue francophone, tout simplement. Ils n'étaient pas suffisamment francophones pour rentrer dans des problématiques littéraires aussi exigeantes que celles que je leur proposais. Donc voilà, le contraste est scandaleux. Et il y a évidemment un souci dans notre système éducatif.
Justement, puisque vous parlez des normaliens de votre génération, que diriez-vous à nos auditeurs, dont beaucoup donc sont à l'ENS et beaucoup d'entre eux préparent l'agrégation? Est-ce que vous leur diriez, plutôt que foncer à Libération, foncer au lycée, il y a du boulot ou,
Moi, je leur dirais surtout, n'oubliez jamais de mettre votre intelligence au service de la critique du monde et de sa transformation. Peu importe l'endroit, peu importe l'endroit, mais ne devenez jamais complice du système qui détruit. Voilà, c'est très tentant parce que, avec les outils qui sont les nôtres, on nous tend des mains, on nous propose des places qui sont des places très à l'abri, très protectrices, mais qui sont des places de domination où on n'en finit pas de perpétuer un système totalement inégalitaire, injuste, immonde. Donc, si j'avais un message à transmettre, ce serait ça. N'oubliez jamais de mettre votre intelligence et vos performances intellectuelles au service de la critique du monde et de sa transformation, et non pas de sa perpétuation à l'identique.
et vous, alors, votre activité critique, vous l'avez engagée en partie dans une activité journalistique, dans une petite part du paysage audiovisuel aujourd'hui qui est Arrêt sur image. Alors, cette émission a été diffusée sur France 5, donc je rappelle pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas. Donc, cette émission a été supprimée sur France 5 en 2007. Puis, donc, quelques personnes de l'équipe de France 5 ont décidé, coûte que coûte, de continuer l'expérience, et vous en faites partie. Vous avez donc choisi de continuer sur Internet. Est-ce que la sortie de la grille des programmes de France 5 est pour vous, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que c'était une censure politique vraiment? Ou est-ce que vous préférez employer d'autres mots?
Moi, mon sentiment, c'est que c'est une censure politique. Le sentiment de Daniel Schneiderman, c'est aussi que c'est une censure politique. Mais nous n'avons pas les moyens de le prouver, évidemment. Ce qu'on nous a dit, c'est ça fait 12 ans que ça dure, nul n'est irremplaçable, voilà. Bien sûr qu'on ne nous a pas dit vous êtes trop à gauche, maintenant que le ciel est à droite, on se sent les coudées franches pour se débarrasser de vous. Personne ne nous l'a dit. Mais moi, le calendrier même de notre disparition, le fait qu'il commence à y avoir des rumeurs à partir de l'élection de Sarkozy et que c'est le lendemain de la victoire de l'UMP aux législatives qu'on nous apprend qu'en effet l'émission n'est pas reconduite en septembre prochain, un tel calendrier, c'est difficile de ne pas l'interpréter quand même comme ayant des enjeux politiques. Voilà.
Et alors, vous continuez sur Internet. Qu'est-ce que vous tirez de cette expérience sur Internet, qui est quand même, pour à l'époque, assez innovante? Vous vivez à partir des abonnements de vos auditeurs. Comment voyez-vous ce journalisme-là? Est-ce que c'est pour vous l'avenir de la position critique?
Alors, juste d'abord, il ne faut pas dire que je suis journaliste parce que je ne le suis pas. Je suis chroniqueuse, c'est-à-dire que ma subjectivité n'a pas à être escamotée. Je n'ai pas de prétention à l'objectivité ou à la neutralité. C'est hyper important. Alors que le journaliste a un devoir, au moins tendre vers une forme de neutralité. Moi, ça n'est pas mon devoir.
Chronique donc sur Arrêt sur image, on peut la retrouver donc avec les autres chroniques. Chronique s'appelle Chez Judith, c'est ça? Et
Oui.
puis l'émission dans le texte.
Et l'émission, c'est dans le texte. Alors, ce que. Cette expérience Internet, elle a été absolument passionnante. D'abord, elle n'aurait pas été possible sans l'audace intellectuelle et le courage de Daniel Schneiderman, mon patron, pour qui j'ai vraiment une immense estime, qui a cru dans ce modèle-là avant tout le monde et qui s'y est lancé sans guère d'autre appui que le sentiment qu'on avait un public qui nous soutenait. En fait, il y avait une pétition qui avait été signée suite à la suppression d'Arrêt sur image sur France 5. Avec énormément de signatures, je ne sais plus, mais je crois me souvenir que c'était genre 180 000 signatures, un truc assez énorme. Et c'est fort de ce seul soutien-là, mais qui ne vaut rien financièrement, qu'on s'est lancé dans l'aventure. Et Daniel a cru le premier dans le modèle économique d'un site payant sur abonnement. Et à l'époque, tout le monde lui disait, t'es malade, ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Internet, c'est le règne du gratuit. Tout le monde a le fantasme de l'information gratuite. Comment tu veux prétendre faire payer qui que ce soit sur Internet pour de l'info? Sachant que l'info, elle est gratuite partout et que sur Internet, tout est gratuit. Daniel s'est lancé quand même et il n'a pas eu tort, puisqu'à l'heure actuelle, on découvre que le modèle économique sur lequel on fonctionne, donc sans aucune aide extérieure, Daniel a poussé le vice jusqu'à refuser toute sollicitation de subvention publique. Il ne veut pas d'argent public pour qu'on ne soit décidément dépendant de personne. Évidemment, pas de publicité. Vu la déontologie d'Arrêt sur image, il est impensable qu'on se mette comme ça, dans la dépendance d'argent de boîtes privées que du coup on ne pourrait plus traiter nous de manière indépendante. Donc, on fonctionne qu'avec les abonnements. C'est pourtant des abonnements pas très chers. C'est 30 euros par an, je crois. Et ça marche. Le modèle économique, il est trouvé. Il y a une équipe de entre 5 et 10 personnes permanents à temps complet, plus des chroniqueurs. On est payé à la pige. On n'est pas très bien payé. Il faut dire ce qu'il y a. Il y a une part de... Il y a une part de... C'est pas un sacerdoce non plus, mais bon, c'est une forme d'engagement. C'est une forme de militantisme de travailler là. Donc, on accepte de faire des piges qui sont infiniment moins payées qu'elles ne le sont à la télé ou même à la radio. Donc voilà, il a inventé un modèle économique qui fonctionne. Moi, je crois que ça fait partie d'une éducation nécessaire de l'opinion, de comprendre que bien sûr l'information, ça se paye, car de toute façon, c'est une économie. Il faut que l'argent rentre dans le système quelque part. Un journaliste, c'est quelqu'un qui fait un travail. Le travail doit être payé. Si ce n'est pas le lecteur qui paye le travail du journaliste, c'est forcément quelqu'un d'autre. C'est un annonceur. C'est un actionnaire, c'est quelqu'un qui a des intérêts autres que l'information. Donc il faut toujours se demander qui met l'argent dans le système de l'information. Et à l'arrivée, une fois qu'on s'est posé cette question, on se rend compte que pour avoir la meilleure information possible, sans doute, il vaut mieux que celui qui mette l'argent, c'est celui qui a le plus intérêt à avoir une bonne information, c'est-à-dire le consommateur d'information, le lecteur. Et nous, nos abonnés, je pense qu'ils ont très bien compris ça. Ils payent pour avoir de la bonne info. Ils ont une bonne info. Alors nous, on n'est pas un site d'actu à proprement parler. Hein. On n'est pas non plus, on n'est pas rue 89. Ou... On ne fait pas de l'actu premier degré. Nous, on fait de l'actu second degré, c'est-à-dire l'analyse du traitement média de l'actualité. Donc évidemment qu'on parle quand même d'actualité par incidence, mais ce qu'on essaie de mettre en lumière à chaque fois, c'est des partis pris médiatiques qui ont été adoptés et qui ont créé des biais éventuellement sur l'information.
D'accord. Et donc justement sur... Ce traitement donc, de la critique, de la déconstruction de l'image médiatique, c'est l'objet premier donc, de votre émission.
Ma chronique, en fait, c'est en effet de l'humeur et de la réaction à chaud, mais c'est dans l'espace de ma chronique que je fais encore un peu de décryptage média. Je dois reconnaître que j'en fais de moins en moins, parce que comme ça fait quand même 4-5 ans que je le fais, j'ai un petit peu, moi, usé tout ce que j'avais à dire sur le traitement médiatique, qui est hélas extrêmement répétitif. C'est toujours les mêmes biais, les mêmes tropismes, les mêmes figures de rhétorique qui reviennent, et une fois que j'ai fait 200 chroniques, j'ai un peu fait le tour de la question. Donc c'est vrai que maintenant, dans mes chroniques, il y a plus d'humeur et de questionnement politique de fond que de décryptage média, parce que le décryptage média, c'est un travail que j'ai déjà beaucoup fait. L'émission littéraire dans le texte, c'est, comme je viens de le dire, une émission littéraire dont on peut se demander un peu ce qu'elle fout au milieu de ce site de décryptage média, mais c'est toute la singularité d'Arrêt sur image, ce drôle de radeau qui est en train de devenir un gros bateau, de produire des émissions de plus en plus diverses, l'idée étant que, après avoir critiqué les productions de télé pendant des années, on s'est dit, Daniel Schneiderman s'est dit, et nous l'avons pensé avec lui, ne nous contentons pas de critiquer. Essayons-nous de produire des contenus qui échappent au travers qu'on a identifié dans le système médiatique. Les médias sont souvent assez incapables de parler intelligemment de culture, que ce soit de cinéma, de littérature. Et ça nous intéresse, le cinéma et la littérature, parce que ce sont des images du monde, au fond, quelque part. On est encore un peu dans Arrêt sur image. Quelles sont les formes par lesquelles, les représentations par lesquelles le monde arrive à notre connaissance? Bon, bah, l'actualité, c'est une des représentations du monde. Il faut avoir conscience que c'est une représentation, et non pas le réel lui-même. Et bien, la littérature et le cinéma, ce sont d'autres représentations du monde qui posent également des problèmes de mise en forme et qui nous invitent à une forme de connaissance du réel, par... biais fictionnels interposés. Et donc, on s'est mis à produire des contenus, des missions littéraires, des missions sur le cinéma. Voilà, et bon, moi, j'étais à l'initiative des deux. Maintenant, je m'occupe surtout de la littéraire. Au début, je faisais l'émission cinéma, mais bon, on a recruté d'autres chroniqueurs infiniment plus compétents que moi sur le domaine de la cinéphilie. Donc, c'est Rafik Djoumi, maintenant, qui prend en charge plutôt les émissions sur le cinéma. Donc c'est un site qui est très complet maintenant, où à la fois il y a du décryptage de médias sur l'actu, mais il y a aussi des émissions sur les livres, les films, et on essaie de faire de la qualité, c'est-à-dire de prendre le temps d'aller au fond des choses.
Donc votre émission et votre chronique s'appliquent en partie à la déconstruction des images médiatiques, pourtant vous faites vous aussi partie intégrante des médias par votre prise de parole. Comment faites-vous donc pour gérer ça, pour garder le recul en étant à la fois dedans et dehors?
La position dedans-dehors, c'est une position qui est extrêmement complexe, que j'ai vécue assez douloureusement à l'époque de France 5, où on était dans un format télé, des exigences télé, c'est-à-dire ma chronique devait impérativement être extrêmement courte, jamais plus de 3 minutes, parce que c'est comme ça une chronique à la télé, c'est 3 minutes. Où je me sentais dans l'obligation de séduire, d'être drôle et belle, dans des choses qui me semblaient assez éloignées de l'exigence d'une pertinence du propos. Et donc je me sentais à la fois en position critique du système et en même temps complètement rattrapée par les logiques du système que je prétendais dénoncer. Donc j'étais assez mal à l'aise. Depuis qu'on est sur Internet, c'est un peu différent, c'est une marge. C'est une marge absolument infinie, gigantesque, qui finit par être beaucoup, beaucoup plus grande que le centre qu'elle entoure, mais n'empêche que c'est une marge. Et donc, quand on est sur Internet, on n'est pas tout à fait dans le système. On est toujours à côté, autour. On n'a pas du tout les mêmes contraintes, donc pas les mêmes contraintes de format. Nous, en plus, donc, on est dans une indépendance économique totale. Donc, on a des contraintes financières, on n'a pas les moyens de faire des gros machins avec des gros décors et tout, mais on s'en fout un peu de ça. On fait avec 3 bouts de ficelle, on fait un décor. Et voilà, nos seules contraintes, elles sont dans notre relative pauvreté matérielle. Mais sinon, nous n'avons que de la liberté. Donc, on ne se sent pas dans le système. On se sent tout autour du système et en position finalement assez forte pour le critiquer.
Est-ce que vous feriez une analogie entre votre goût pour les planches et votre goût pour le théâtre et justement cette parole jetée sur Internet, cette parole un peu criée et critique? Est-ce que pour vous, les deux activités sont complémentaires?
Évidemment, puisque c'est une manière d'offrir ma personne en support et en pâture à du public. Bien sûr, mais tous mes lieux d'activité sont des lieux où ma personne de passerelle, de passeuse, est une espèce de, certes, d'incarnation pour une pensée face à un public à qui il s'agit de transmettre à la fois des savoirs et des affects. Bien sûr, il y a une théâtralité de toutes mes positions professionnelles. Quand j'enseigne, je suis comédienne aussi. Quand je suis sur scène, je suis comédienne, et quand je suis chroniqueuse, je suis comédienne. Et dire ça, dire comédienne, ça ne veut pas dire je suis dans le mensonge et dans le simulacre. Ça veut dire oser s'exposer, et donc se brûler un peu, se consumer un peu, parce qu'on perd un peu de soi là-dedans, pour servir de support à des expériences de transmission. Voilà, je mets ma personne, je l'offre en pâture et je m'en prends plein la gueule. À l'époque de France 5, je m'en prenais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la gueule. C'est pas facile d'être gauchiste à la télé.
Est-ce que, en cela, les années que vous avez passées à l'ENS, elles ont été plutôt formatrices? Est-ce que c'est les années où vous vous dites je me sens de gauche et je vais... J'ai envie de porter une parole au monde, j'ai envie de prendre position? Ou alors est-ce qu'au contraire, c'est un milieu très formaté et donc ça va être un peu a posteriori? Est-ce que c'est plutôt un repoussoir ou est-ce que ça a plutôt été un moment clé?
Bon, alors d'abord, ma conscience de gauche, elle est très antérieure à mon intégration à Normale Sup. Moi, j'étais une lycéenne déjà assez mobilisée, assez active, assez à traîner dans les manifs, aller aux AG, etc. Donc, ma conscience de gauche, elle est antérieure à Normale Sup. À Normale Sup, je découvre, bien plus que l'enseignement de Normale Sup, la salle de théâtre de Normale Sup, parce qu'à vrai dire, j'ai fait un usage extrêmement personnel et tout à fait artistique et créatif de Normale Sup. À l'époque où j'y étais, moi, c'était Fontenay-aux-Roses, le site de Fontenay-aux-Roses, où il y avait une superbe salle des fêtes avec un vrai plateau, un vrai rideau de scène, des projecteurs et une salle de 200 places. Donc, moi, je suis arrivée là comme dans la caverne d'Ali Baba. J'avais déjà une vocation pour le théâtre, plus comme comédienne, j'avais encore jamais fait de mise en scène, mais ça a été l'occasion en or pour moi de reprendre l'atelier théâtre, d'en devenir responsable et de faire de la mise en scène. Donc à cette époque, je suis de gauche, mais Normale Sup n'y est pour rien. Ce que Normale Sup m'apporte, c'est un outil théâtral et du personnel à disposition, parce qu'avec tous les internes, j'avais matière à faire des troupes très nombreuses, des matchs d'impro, toutes sortes de trucs. Donc je me suis fait la main en théâtre. Mais... je ne savais pas à l'époque que j'avais cette vocation pour la parole publique. À l'époque, je le découvre sans le comprendre encore. Je me retrouve en position de chef-taine de troupe, de responsable de l'atelier théâtre. Et en tant que metteur en scène, c'est aussi une position comme ça d'autorité, de responsabilité, de diffusion d'énergie. Mais voilà, j'expérimente ça qui est tout neuf pour moi. Je découvre que je sais le faire. Je ne sais pas encore que c'est une vocation existentielle. Et qu'ensuite tous mes métiers me mettront de plus en plus dans cette position-là d'hyper-exposition et d'hyper-expression de mon humeur critique.
Qu'est-ce que vous montez par exemple comme qu'est-ce que vous avez monté
Alors, Ma première pièce, la première mise en scène que j'ai faite, aujourd'hui je la renie un petit peu. C'était un Tennessee Williams, c'était la descente d'Orphée. Le critère de sélection de cette pièce, c'est que j'avais besoin de 18 personnages parce que j'avais 18 acteurs à occuper. Et donc, c'est pas un critère très, très artistique. C'était pas le propos de la pièce qui m'intéressait. D'ailleurs, moi, je m'y faisais mon école de mise en scène. Il s'agissait surtout d'apprendre, pour moi, à mettre en scène des acteurs et à raconter une histoire sur la scène. Aujourd'hui, je le renie parce que le théâtre de Tennessee Williams, c'est un théâtre très réaliste, psychologique, sur des problématiques un peu datées, qui me parlent plus du tout. Et c'est évidemment pas du tout vers ça que je vais. Après, j'ai monté un Shakespeare, Peine d'amour perdue, où là, j'étais plus attentive à essayer d'exploiter la magie, la puissance théâtrale. Je découvrais la puissance de l'outil théâtral, sa puissance onirique, poétique. Donc c'est ça qui m'intéressait. Et ensuite, dès que je suis sortie de Normale Sup, ce qui m'intéressait, c'était du théâtre politique, c'est-à-dire choisir des textes susceptibles d'être porteurs d'un propos critique politique, ce que je fais depuis systématiquement.
Peut-être pour finir cette émission, pourriez-vous nous confier à nous et à nos auditeurs un souvenir de votre scolarité qui, soit dans le bien, soit dans le mauvais souvenir, vous semble compter pour vous?
Oh ben, évidemment que pour moi, c'est le bon souvenir de la caverne d'Ali Baba. C'est évidemment la découverte du plateau théâtral. Peut-être la déconvenue, j'avais trouvé aussi un stock de costumes qui traînait là, mais dont j'ai découvert très vite qu'il était totalement rongé au mythe et qu'il sentait la sueur. Ça, c'est pour le mauvais souvenir qu'on pouvait rien faire avec ces costumes-là. Donc j'avais le plateau, j'avais les fauteuils de spectateurs, les projecteurs, on a tout remis en marche et voilà, c'était ça la magie de Normale Sup et mes souvenirs les plus forts de Normale Sup, c'est les bonheurs de théâtre que j'y ai vécu.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bonne continuation.
Merci.